Docteur Colette, bonjour.
Bonjour.
Docteur Colette, vous êtes médecin du sport et vous occupez de l'enseignement sur le certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive. Docteur Colette, quelles sont les nouveautés en la matière ?
Bien écoutez, j'en vois deux. Une émanant du ministère Jeunesse et Sport par l'ordonnance du 23 mai 2006, relative donc à la première délivrance d'une licence sportive qui est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique demandée. Il y existe aussi un renouvellement régulier de ce certificat qui peut être exigé par la fédération. Le but de ce certificat médical étant de préserver la santé du pratiquant, on va rechercher ses contre-indications, de lutter contre le dopage, on va s'assurer que la personne ne prend pas de substances interdites, et enfin, surtout d'informer le sportif des risques qu'il encourt. Pour la première partie, pour la deuxième partie concernant les recommandations européennes, ces recommandations européennes précisent le bilan cardiovasculaire minimum à réaliser avant la délivrance d'une licence sportive, ce qui va sous-entendre un entraînement régulier et intense afin d'améliorer les performances. Il s'agit donc de l'électrocardiogramme de repos qui est à réaliser théoriquement tous les 2 ans, dès l'âge de 12 ans jusqu'à 35-40 ans. Après, le relais sera pris par les épreuves d'effort. Mais ces recommandations ne se substituent pas pour autant aux textes officiels.
Docteur Colette, dites-moi en plus sur les raisons de ce certificat.
Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le but est de préserver à tout prix la santé du pratiquant. Il faut malheureusement savoir qu'on estime, par exemple, que le risque de mort subite chez les joggeurs est de 1 pour 15 000. Je ne voudrais pas effrayer. C'est vrai que ça peut être rassurant, mais ça correspond quand même à 650 décès par an pour ce seul sport aux États-Unis où il y a environ 10 millions d'adeptes. Les principales causes, bien entendu, de mort subite sont cardiaques, avec les cardiomyopathies obstructives, les angines de poitrine, les infarctus, les prolapsus, etc., les troubles du rythme cardiaque, et aussi les pathologies vasculaires à type d'hémorragie cérébrale ou rupture aortique.
Docteur Colette, dans les recommandations européennes, il est question d'épreuves d'effort. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Bien écoutez, l'indication de l'épreuve d'effort chez un adulte qui veut pratiquer du sport a peu d'intérêt, on va dire, chez le sujet de moins de 40 ans, s'il est asymptomatique, s'il n'a pas de facteur de risque, c'est-à-dire s'il n'est pas obèse, s'il ne fume pas, s'il n'a pas de cholestérol, etc., s'il n'y a pas de notion de compétition. Ça, c'est très important. Certainement, on va lui demander de faire une épreuve d'effort si le sujet est symptomatique. Ça, c'est sûr, quel que soit l'âge et s'il a un facteur de risque, bien entendu. Et enfin, probablement, chez tout sujet de plus de 40 ans qui veut faire du sport intense, de compétition.
Docteur Colette, au niveau de l'évaluation de la personne qui vient vous voir, comment procédez-vous ?
Eh bien, comme dans toute consultation clinique, il y a un interrogatoire, un examen clinique. Dans l'interrogatoire, nous allons même jusqu'à demander les antécédents familiaux, s'il n'y a pas de mort subite, on y revient malheureusement, s'il n'y a pas d'infarctus, s'il n'y a pas d'hypertension. Sur le sujet lui-même, on va demander si c'est un sport de loisir ou de compétition, l'ancienneté de cette pratique, ou si c'est une reprise du sport, le nombre d'heures par jour, par semaine, l'intensité que le sujet veut mettre dans son sport. Et on va demander la qualité de la récupération, le sommeil, l'appétit, etc. Et on va avoir cette notion de rechercher une symptomatologie cardiaque, douleur thoracique, palpitations, essoufflement anormal à l'effort, etc. Et puis, dans l'interrogatoire, on va bien sûr s'attacher au côté ostéo-articulaire pour savoir s'il y a une pathologie qui est sous-jacente. Et même que le sujet ne connaît pas, on pourra le voir tout à l'heure lors de l'examen clinique, il arrive souvent que lorsqu'on examine les sujets, on trouve par exemple des contractures musculaires qui ne font pas mal à priori pour le sujet, mais lorsqu'on met le doigt dessus, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose. Et ce quelque chose, si on le laisse traîner de manière chronique, va pouvoir entraîner des pathologies musculaires, élongations, voire claquages. Dans cette consultation, donc, on recueillera aussi les antécédents personnels que sont les maladies infantiles, les interventions chirurgicales s'il y en a eu, les antécédents traumatiques, notamment les entorses de cheville à répétition de genoux, ça c'est très important. Les antécédents médicaux, savoir si la personne est asthmatique, diabétique, si elle a eu des crises d'épilepsie. Puis le mode de vie, si la personne fume, s'il y a une prise d'alcool. Les traitements associés, si la personne prend des médicaments. Et on terminera par les vaccins. Voilà ceci concernant l'interrogatoire. Ensuite, nous passons à l'examen clinique, où bien entendu, on va peser le sujet, le mesurer, faire la masse grasse, Ça, c'est très intéressant. Prendre la fréquence cardiaque, la tension artérielle, bien entendu. On va palper les différents pouls, on va faire la palpation de l'abdomen et on va faire l'auscultation cardiaque, l'auscultation pulmonaire et les axes vasculaires. Alors concernant l'appareil locomoteur, il est intéressant d'avoir un podoscope. Un podoscope, c'est-à-dire ça permet de voir les appuis du sujet. Et ça, c'est très intéressant. L'examen articulaire, l'examen musculaire, l'examen tendineux, c'est un examen classique, on va dire, dans une consultation de médecine sportive.
Docteur Colette, en ce qui concerne l'évaluation de certains sportifs pratiquants ou allant pratiquer certains sports bien spécifiques, y a-t-il des cas particuliers ?
Oui, on va donner des exemples. Hein. Si le sujet est asthmatique, s'il est diabétique, insulinodépendant, s'il y a un traitement par bêta-bloquant ou s'il y a une hémophilie et que la personne veut faire de la plongée en scaphandre autonome, il faut que cette personne soit vue par un médecin fédéral qui délivrera ou non le certificat médical de non-contre-indication à la pratique de ce sport.
Docteur Colette, quelles sont les précautions à prendre lors de l'attribution de ces certificats de non-contre-indication à la pratique du sport ?
Bien, moi je le vois sous deux angles, l'angle du médecin et l'angle du sportif lui-même. Concernant le médecin, je pense qu'il faut qu'il connaisse bien le sujet, la personne qui veut faire un sport. Il faut qu'il connaisse le sport aussi, bien entendu, ça c'est quand même important, et ses contre-indications. Il y a quand même plus de 200 sports répertoriés avec leurs contre-indications, vous voyez, donc c'est quand même important. Et en fait, je pense que le médecin, il faut qu'il soit honnête aussi avec lui-même s'il est apte à signer un tel certificat, parce qu'il entraîne quand même sa responsabilité civile, pénale et ordinale.
Et pour le sportif ?
Eh bien, je crois que celui-ci a intérêt à bien détailler lors de l'interrogatoire ses antécédents, ses signes fonctionnels, ses traitements. En fait, il ne faut pas qu'il masque quoi que ce soit, car il y va de sa santé. Hein. Comme j'aime bien dire, le sport est un ami de l'homme et de la femme. Il faut faire en sorte qu'il ne devienne pas son ennemi.
Docteur Colette, je vous remercie beaucoup.
Merci.